suis tombée de fil en aiguille sur la fille de Madame Aitiwadji, donc qui s'appelle Gulumar, qui a un prénom très proche de celui de sa maman, qui m'a raconté cette histoire terrible qui était celle de sa maman, à savoir à l'époque que sa mère avait disparu du jour au lendemain lors d'un voyage au Xinjiang où elle était censée signer une poignée de papier.
Podcast by Tendance Ouest.
Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Bouquins dans les poches. Rescapé du goulag chinois, c'est le titre du livre coécrit par Rosane Morga, journaliste au Figaro, avec Gulbar Aitiwadji, la première survivante ouïghour qui témoigne. Née dans le Xinjiang, la province des Ouïghours en Chine, l'héroïne vivait en France depuis de nombreuses années, jusqu'en novembre 2016 où sa vie bascule. Un livre poignant qui nous dévoile la réalité du système concentrationnaire chinois, torture, faim, violence policière ou encore stérilisation forcée. Gulbar nous raconte l'enfer qu'elle a vécu pendant 3 ans. Bonjour Rosane Morga, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous.
Vous êtes donc journaliste au Figaro et co-auteur du livre « Rescapé du goulag chinois » qui est paru aux éditions Équateur en janvier dernier. C'est un livre poignant et surtout le premier qui livre l'horreur du système concentrationnaire chinois. Pourquoi avez-vous souhaité écrire sur ce sujet ?
Moi, j'ai commencé à écrire sur le Xinjiang quand je suis rentrée de Chine, en fait. J'étais correspondante en Chine auparavant pour Ouest France, entre autres. Et pendant un petit moment, et j'ai été complètement empêchée en fait d'aller au Xinjiang quand j'étais à Shanghai, parce que j'avais prévu de faire ce voyage, et c'était déjà un lieu complètement bunkérisé auquel les journalistes et les étrangers en général n'avaient pas accès. La question des Ouïghours était déjà une question un peu latente dans l'actualité chinoise. Donc je suis rentrée avec l'idée de rencontrer en fait les diasporas qui avaient fui à l'étranger, les diasporas Ouïghours. Et de là, j'ai commencé à rencontrer plusieurs personnes à Paris. Et je suis tombée de fil en aiguille sur la fille de Madame Aitiwadji, donc qui s'appelle Gulumar, qui a un prénom très proche de celui de sa maman, et qui m'a raconté cette histoire terrible qui était celle de sa maman, à savoir à l'époque que sa mère avait disparu du jour au lendemain lors d'un voyage au Xinjiang où elle était censée signer une poignée de papier dans son ancienne entreprise, et en fait qu'elle n'en était jamais revenue, et que de son entreprise, des policiers étaient venus la chercher et l'avaient emmenée dans une prison en garde à vue dans un premier temps, puis avait été déportée en camp de rééducation. Et ça faisait déjà plusieurs années qu'elle n'avait plus de nouvelles de sa mère, qu'elle se battait en France sur les réseaux sociaux, dans la presse, aussi auprès du Quai d'Orsay, pour comprendre où était passée sa maman et surtout la faire libérer et la faire rapatrier. Moi, j'ai raconté dans un premier temps l'histoire de la fille, l'histoire de Gulumar. Et puis les choses avançant dans le temps, on est resté en contact, on avait quasiment le même âge, donc c'est vrai que ça a créé un lien supplémentaire. On a continué à s'appeler, et puis un beau jour, donc c'était en août 2019, si je dis pas de bêtises, Gulumar m'a appelé et m'a dit, là je pars à l'aéroport, elle est libre, on vient de la prendre. Ça s'est fait très rapidement. Et Gulbar a atterri en France, est revenu en France comme ça, après des négociations ardues. Et de là, il a été question qu'on se rencontre toutes les trois pour qu'il y ait une suite à l'histoire de la fille. Il fallait raconter celle de la maman. Et au début, c'était des conversations assez intimes, des choses qui n'avaient pas du tout vocation à donner lieu à un livre, qui était vraiment plus... De toutes les façons, Gulbar, elle était traumatisée. Elle revenait de quelque chose d'inimaginable, quasiment personne n'en revient. C'était une des premières en France, hein, pour ne pas dire la première, qui revenait d'un endroit terrible comme celui-là. Donc le projet du livre a mis un peu de temps à venir sur la table, en fait. Au début, il était plus question de comprendre juste ce qui s'était passé pour elle et de savoir, en fait, d'avoir ces informations qu'on n'avait pas auparavant. Après, le livre est né parce que l'histoire était bien trop importante, bien trop grave pour en faire un simple papier. Enfin, non pas qu'un papier ce soit pas suffisant, mais il y avait tant de choses à raconter que l'idée du livre est venue et a mûri dans son esprit aussi, parce que c'est moi qui lui ai apporté cette idée du livre. Et il fallait qu'elle la digère, il fallait qu'elle soit d'accord avec cette idée, ce qui n'était pas facile parce que ça implique de revenir sur tout son traumatisme alors qu'on en sort à peine. Donc c'était un vrai combat intérieur pour elle qui a finalement donné lieu à un oui. Et elle a fini par, par donner son accord et s'est lancée dans, dans cette aventure littéraire, on va dire.
Justement, vous, vous le dites, c'est l'une des premières à témoigner. Comment vous l'avez convaincue et combien de temps ça, ça vous a pris pour justement faire naître ce livre?
Alors, je pense pas que je l'ai convaincue. Je pense que pour moi, j'étais convaincue vraiment de l'importance de raconter cette histoire parce qu'elle était totalement inédite et que le monde avait vraiment besoin de savoir ce qui se passait pour les Ouïghours au-delà de la disparition des gens, en fait. On avait besoin aussi de comprendre... je veux dire, il y avait des milliers de personnes qui disparaissaient quand on suivait l'actualité Ouïghour, des centaines de Ouïghours à l'étranger qui disaient « j'ai pris de contact avec mon oncle, ma mère, mon frère, je ne peux plus rentrer au Xinjiang, enfin, je reçois des messages extrêmement étranges des autorités chinoises, enfin voilà. » Donc cette histoire, elle avait déjà été racontée des dizaines de fois et on n'avait pas l'histoire, l'autre histoire qui est ceux qui en reviennent et qui peuvent la raconter. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai expliqué à Gulbar. C'était tout l'objet de ma démarche, c'était de lui dire que ce qu'elle avait vécu était totalement inédit. Et elle, en fait, si vous voulez, elle a passé 3 ans dans un endroit coupé du monde, enfermé, avec des personnes comme elle qui ne savaient rien de ce qui se passait à l'étranger, qui n'avaient aucune idée de l'attention croissante qui était, que les gens portaient à l'histoire des Ouïghours, en fait. Enfin, c'est quand elle est rentrée en France, à Paris, et que sa fille lui racontait le combat médiatique, les diasporas dans le monde... les États-Unis qui se positionnaient vis-à-vis de la Chine sur le sujet, les pays européens aussi un peu plus timidement, mais quand même, qu'elle a compris que en fait, c'était vraiment quelque chose d'énorme et que dans ces cas-là, oui, effectivement, un livre, ça avait du sens. C'est quelque chose qui, jusqu'à la dernière seconde, a été en suspens parce qu'elle elle a été d'accord pour le livre assez vite. Mais au début, il n'était pas du tout question qu'elle, qu'elle assume sa véritable identité parce qu'elle trouvait ça trop dangereux. Elle a encore beaucoup de famille au Xinjiang et elle pensait que, voilà... ça pouvait vraiment avoir des conséquences sur sa famille restée là-bas. Donc il était question d'un livre avec une personne anonymisée, une histoire qui serait racontée à la troisième personne. Et voilà, c'est en lui montrant le produit écrit et la façon littéraire de mettre en avant son histoire à la première personne qu'elle s'est rendue compte qu'effectivement ce serait plus intéressant de la raconter comme ça. Et quand elle a commencé à lire les 50 premières pages du livre, en septembre dernier, là, elle s'est dit que, enfin voilà, ça s'est né en elle. Elle m'a appelée et elle m'a dit que finalement, elle voulait, voilà, assumer jusqu'au bout son histoire dans le livre.
Pourquoi c'est un témoignage rare aujourd'hui, celui de Gulbar?
Je pense qu'il est rare parce qu'il est, il y a très peu de gens qui sortent de ces camps avec, avec le courage de parler. Les gens, ils sont brisés par les Ouïghours qui sortent de ces camps. La plupart du temps, les Ouïghours, en plus, il y en a qui vivent à l'étranger, mais finalement, il y en a quand même beaucoup qui restent au Xinjiang. Donc quand ils sortent des camps, si vous voulez, ils sortent d'une prison pour rester dans une prison. Le Xinjiang, c'est aussi une prison dans laquelle il n'y a pas de parole, il n'y a pas de liberté d'expression. Tout le monde sait que les camps existent, mais personne n'en parle autour de soi parce qu'il y a une chape de plomb terrible là-dessus. Donc recueillir le témoignage de quelqu'un qui pouvait raconter l'horreur du système... de rééducation de son intérieur, qui en avait vu toute la perversité avec les yeux de quelqu'un en même temps qui avait vécu à l'étranger pendant 10 ans, donc qui était déjà, si vous voulez, un peu libéré du joug du Parti communiste chinois, c'était totalement inédit. Parce que Gulbar, elle a un œil, elle a beaucoup de recul par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Elle a quitté le Xinjiang il y a maintenant, c'était au début des années 2000, donc elle a vécu 10 ans en France, avant de se retrouver attrapée par le Parti communiste chinois pendant ce voyage au Xinjiang. Et je pense que son témoignage était d'autant plus précieux et d'autant plus inédit qu'elle était capable d'avoir un esprit critique dessus même si elle était broyée, elle avait, on a réussi ensemble à construire un livre avec du recul et avec une dimension vraiment, une réflexion sur tout ce système. C'est ça qui le rend encore plus fort, je pense, que le témoignage brut de quelqu'un, voilà, qui revient des camps et qui vous raconte effectivement toute l'horreur des choses. Mais elle a compris beaucoup de choses en fait. Elle a réussi à disséquer de l'intérieur tout ce qu'ils vivaient, tout ce qu'on leur infligeait, etc. Et ça, elle me l'a raconté de manière assez au début confuse, etc. Parce que forcément les souvenirs s'en mêlent et voilà. Mais le livre, il tient sur deux jambes, il tient sur elle, son témoignage, et moi, ce que j'ai fait, donc, tout ce travail journalistique de recouper tout ce qu'elle disait, de l'analyser, de lui reposer des questions aussi. Il a fallu approfondir beaucoup de choses parce que le témoignage brut, il était totalement brut. Et après, il y avait des choses, voilà, qu'on a retravaillées, où moi, je lui ai mis le nez, et c'était quelque chose de difficile et de douloureux, je pense, pour elle aussi, parfois, mais dans ce qu'il fallait dire. Dans ce qu'il fallait dire de plus, dans l'approfondissement.
Justement, aujourd'hui, la cause des Ouïghours, c'est devenu un sujet médiatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de ce drame? Pourquoi les Ouïghours sont-ils persécutés?
Les Ouïghours, ils sont persécutés parce qu'ils se trouvent... c'est une ethnie minoritaire chinoise qui a été annexée, enfin qui vit dans la province du Xinjiang. Et le Xinjiang, ça veut dire « nouvelle frontière » en mandarin. Donc c'est un endroit qui a été annexé par la Chine en 1949. Pendant des générations et des générations auparavant, les Chinois avaient déjà un peu la main dessus. Mais officiellement, le Parti communiste s'en est saisi en 1949 et a commencé à envahir la province qui est gigantesque. Hein, ça fait trois fois la France. Et à y installer les routes, à y installer les raffineries aussi, parce que c'est un endroit où il y a une grande quantité de pétrole et de richesses souterraines. Et c'est surtout un couloir hyper stratégique entre la Chine et... le reste de l'Asie centrale et puis l'Europe. Donc c'est l'un des boulevards que la Chine compte utiliser pour ses nouvelles routes de la soie. Et pour mener à bien ce projet, il fallait absolument, pour le Parti communiste, que le lieu soit apaisé de ses tensions minoritaires, ethniques, culturelles, religieuses. Donc l'assimilation, ce qu'on appelle vraiment le fait d'assimiler, l'assimilation culturelle chinoise, c'était une partie essentielle de ce projet, pour qu'ils puissent le mener à bien, et les Ouïghours étaient vraiment un caillou dans la chaussure de ce projet. Et les Ouïghours, c'est un peuple qui se revendique indépendant, qui a une culture extrêmement forte, qui puise ses sources beaucoup plus dans les racines turques que dans les racines chinoises. Donc pour eux, ça n'a aucun sens en fait d'être annexés à la Chine, si vous voulez. Ils ne sont pas du tout de la culture chinoise. Il se trouve qu'ils se sont fait annexer. Mais donc en fait, je pense que toute l'idée originelle de la rééducation des Ouïghours, elle vient de là, elle vient vraiment de ce projet économique. Elle vient aussi du fait qu'il y a eu beaucoup de révoltes, parce que en 2009, il y a eu une grande série d'attaques à Urumqi, qui est la capitale du Xinjiang, au début du mois de juillet. Donc ça a donné lieu à des émeutes sanglantes entre les Han, qui sont l'ethnie majoritaire chinoise, et les Ouïghours. Et de là, il y a eu une montée de violence assez importante qui a été réprimée extrêmement, extrêmement durement par le Parti communiste. Donc la rééducation, en fait, elle a toujours fait un peu partie du projet de la Chine pour le Xinjiang, en fait. Il a toujours été question d'assimiler les Ouïghours au reste de la population chinoise pour pacifier la zone, pour les rendre dociles, pour en faire des Chinois exemplaires et permettre de mener à bien les projets économiques qui comptaient mener à cet endroit-là, les Chinois. Voilà. Et après, ça s'est accentué beaucoup parce que ce qui a totalement changé la donne, c'est l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, qui s'est imposé comme président à vie, et le fait qu'il ait placé surtout un nouveau dirigeant en 2016. Donc sensiblement au moment où Gulbar est enfermé dans un camp, c'est Chen Fengguo, si je n'écorche pas son prénom, qui était l'ancien dirigeant du Tibet, qui était connu pour sa politique extrêmement répressive envers les Tibétains, qui a été ensuite nommé à la tête du Xinjiang. C'était pas pour rien, en fait. Si on déplaçait quelqu'un d'aussi dur et d'aussi coercitif à cet endroit-là, c'était vraiment pour qu'il tienne la province d'une main de fer. Et de là sont nés les camps à partir de son arrivée au Xinjiang. En fait, la rééducation, elle a toujours existé. Elle s'est accentuée à partir de 2016 parce que tout d'un coup, ils se sont mis à construire ces structures absolument, absolument lunaires que sont les camps de rééducation.
Justement, dans le livre, vous évoquez toutes les tortures qui sont effectuées dans ces camps de rééducation, et notamment vous évoquez la stérilisation forcée. C'est une pratique courante dans les camps.
Alors, c'est une pratique qui a été révélée par le chercheur Adrian Zenz, qui est un chercheur allemand qui est extrêmement critiqué par Pékin, qui vraiment, on lui fait beaucoup, la Chine lui fait beaucoup, beaucoup de tort pour essayer de taire son travail qui est essentiel pour comprendre ce qui se passe au Xinjiang pour les Ouïghours. Il y a une campagne de stérilisation forcée au Xinjiang, dans la province. Donc ça a été prouvé. C'est probablement quelque chose qui existe aussi dans les camps. Gulbar, elle en parle. Elle a eu de forts soupçons parce qu'elle a été, vaccinée avec toutes ses co-détenues, soi-disant contre la grippe à plusieurs reprises. Et elle n'a jamais su ce que c'était. Elle n'a jamais su si c'était le vaccin de la grippe ou si c'était autre chose. Ce qui est sûr, c'est que peu après la première vaccination, toutes les femmes, les jeunes femmes autour d'elle, parce qu'il y avait beaucoup de femmes de tous les âges dans ce camp, ont commencé à perdre leurs règles. Donc là, elle a eu un signal d'alerte hyper fort parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, on leur faisait probablement quelque chose de supplémentaire, que c'était peut-être une association entre, si vous voulez, cette piqûre, probablement quelque chose qu'on mettait aussi dans leur nourriture parce qu'elles perdaient tous leurs souvenirs, elles avaient de plus en plus de mal à se souvenir qui elles étaient auparavant. Sa mémoire à long terme était totalement altérée par le rythme du camp, par tout un tas de choses, donc elle a eu de forts soupçons. Elle est incapable de, elle dit, je suis pas capable de prouver que c'est ça qui m'est arrivé, mais j'ai de forts soupçons là-dessus, parce que elle revient aussi avec tous les témoignages de ces femmes qui ont perdu leurs règles à ce moment-là et qui se désespéraient de perdre leurs règles parce qu'elles avaient des fiancés, des maris, des hommes à l'extérieur des camps qui les attendaient et avec qui elles voulaient fonder une famille. Et après, quand elle est rentrée en France et que le fameux rapport d'Adrian Zenz est sorti, là, ça a fait un écho très fort dans son esprit parce qu'elle elle a complètement fait le lien entre ce qui lui était arrivé, ses piqûres, et ce qui était mis en place à grande échelle au Xinjiang.
Aujourd'hui, la parole se libère sur cette cause des Ouïghours. Pour vous, quel a été l'élément déclencheur? Comment ça a été dévoilé, mis en lumière?
Je crois que c'est un effet d'accumulation. Le sujet des Ouïghours, la répression que subissent les Ouïghours, ça fait vraiment officiellement 3 ans qu'on en parle de plus en plus, que c'est un sujet récurrent de l'actualité, mais qui apparaissait avant en fait de manière assez fugace. Donc il arrivait... Il y avait un pays européen qui dénonçait la politique de répression au Xinjiang. Il y avait un témoignage dans la presse d'un Ouïghour rescapé ou d'une personne qui disait avoir perdu sa famille. Il y avait voilà tout ça. Mais ça disparaissait aussi vite que c'était apparu. Et ça s'est installé durablement de façon un peu pérenne dans l'actualité à partir du moment où les grandes marques mondiales que sont Adidas, Samsung, etc., toutes ces marques dont on a entendu parler il y a 2 ans, se sont fait épingler parce qu'on les accusait... De faire travailler des Ouïghours au Xinjiang dans des usines et qu'il y avait probablement du travail forcé derrière les produits qui étaient ensuite commercialisés partout dans le monde. À partir de là, il y a eu un vrai lien en fait entre le Xinjiang et le reste du monde. Je pense que les gens ont compris et ont commencé à identifier, à s'identifier au problème parce que tout de suite vous êtes beaucoup plus proche à partir du moment où on vous dit que les baskets ou le t-shirt que vous avez acheté chez H&M est peut-être fabriqué par un Ouïghour dans un camp ou dans une usine. Tout de suite vous faites un lien beaucoup plus fort entre le Xinjiang qui est un endroit très lointain et assez difficile à identifier pour beaucoup de gens et ce t-shirt que vous portez sur vous. Donc je crois que c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça a pris une ampleur très importante, que c'est devenu un sujet économique, que notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il a aussi dû réagir. Enfin, voilà, il y a des personnes qui ont dû prendre la parole, qui ne la prenaient pas auparavant sur le sujet, parce qu'ils jugeaient qu'il n'y avait pas de raison, on va dire. Et là, en devenant un sujet économique mondial, ça ne pouvait plus être tu, en fait. On ne pouvait plus rien dire. Donc je crois que c'est vraiment ce moment-là qui a fait la différence.
Rescapé du goulag chinois, c'est un livre bouleversant. Vous êtes la plume de l'héroïne. Est-ce que c'était un exercice difficile pour vous?
Oui, c'est un exercice très exigeant et puis très, très émouvant aussi parce que Gulbar a accepté de me faire confiance, elle m'a donné son histoire, donc il fallait être à la hauteur de son histoire et réussir à la retranscrire dans toute sa vérité. C'est d'autant plus exigeant qu'il fallait écrire à la première personne sur quelqu'un qui n'est pas soi. Je ne pensais pas que je ferais ça un jour dans ma vie, d'écrire à la première personne pour quelqu'un d'autre que moi-même. Et c'était un travail de fourmi, en fait. C'était extrêmement minutieux parce que toute la description des émotions, toute la description des souvenirs, des lieux, il a fallu pousser très très loin dans le témoignage, en fait. On ne pouvait pas se contenter, quand on se voyait les premières fois et qu'elle me racontait son histoire de façon chronologique. Moi, j'ai vraiment dû l'emmener dans des choses extrêmement précises qui allaient de la couleur de l'uniforme du policier qui l'interrogeait ce jour-là, quel visage il avait, est-ce qu'il avait une peau abîmée, est-ce que il avait une haleine fétide, enfin vous voyez, on avait besoin de tout ça, et ça c'est des choses qui sont un peu évidentes quand on raconte quelque chose à la première personne et qu'on est soi-même, mais quand c'est quelqu'un d'autre et que vous donnez votre parole à quelqu'un d'autre, il faut lui préciser tous ces détails. Moi, je l'ai vraiment emmené, ce procédé littéraire, il était à la fois passionnant et tellement, tellement, tellement beau et tellement important parce que il fallait vraiment que les gens puissent se représenter ce que c'est que son traumatisme dans tout ce qu'il a de charnel et dans tout ce qu'il a d'extrêmement concret. Et moi, je pouvais pas l'imaginer, en fait, ce n'est pas un roman. Il fallait vraiment que tout ça soit dit d'une manière ou d'une autre, toutes ces sensations. Donc, c'était un travail super minutieux et qui était extrêmement, extrêmement fort, ouais.
À la fin de l'ouvrage, vous écrivez que lors de son retour, Gulbar est perçu différemment par ses anciens amis, sa relation avec sa famille restée en Chine est presque contrôlée par les autorités, qu'elle ne peut pas être elle-même. Aujourd'hui, comment Gulbar vit-elle ?
Aujourd'hui, Gulbar, elle vit. Elle va mieux. Je pense qu'elle a été extrêmement déçue et attristée de voir que les gens qu'elle aimait. Donc je parle pas de sa famille, mais des cercles rapprochés d'amis, etc., se détournaient d'elle quand elle est revenue parce que la peur les habitait tellement fort qu'ils n'étaient pas capables de lui tendre la main. Elle a compris que la puissance surtout de la répression chinoise qui s'abat aussi sur les diasporas, puisque ses amis se détournaient d'elle, et s'ils se détournaient d'elle, c'est parce qu'ils avaient peur eux-mêmes qu'il leur arrive quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui, elle est totalement apaisée. C'est quelqu'un qui a fait un cheminement très important, très fort, très bouleversant. Elle revient dans un endroit dont elle ne pensait pas revenir. Elle pensait mourir là-bas. Ou alors passer aux 7 ans dans un camp de rééducation, parce que son jugement était de 7 ans. Donc non, elle est plutôt dans une gratitude extrême et dans une reconnaissance envers tout ce qui lui arrive de bon aujourd'hui et de beau. Et je pense qu'elle n'a pas d'amertume, elle n'a pas tout ça, au contraire.
Merci Rosane Morga pour vos mots.
Je vous en prie.
Et donc on le rappelle, votre livre s'appelle Rescapé du goulag chinois et il est paru en janvier 2021 aux éditions Équateur. Et oui. Je vous remercie en tout cas.
Merci beaucoup.
Et puis à très bientôt, j'espère.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Podcast by Tendance Ouest.
Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.